Je vous invite à lire dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, à partir du verset 18. Lamentations 3, à partir du verset 18. Jérémie vient de faire une longue description des malheurs qui se sont abattus sur Jérusalem, ville dévastée, des malheurs qu'il a aussi endurés lui-même en sa personne. Et il dit, verset 18, « J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-devant de moi. Mais voilà ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont puisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire, silencieux, parce que le Seigneur le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à ceux qui le frappent. Il se rassasira d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion, selon sa grande miséricorde. Ce n'est jamais volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait du tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas ? Et puis deux textes dans le livre de Jérémie, dans une partie qui est plus tournée vers l'avenir, vers le retour de l'exil, Jérémie 30, les quatre premiers versets d'abord. Jérémie 30, les quatre premiers versets. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Juda. Et chapitre 31, les versets 1 à 7. En ces temps-là, dit le Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, le Seigneur se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétablie, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure. Tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront, cueilleront les fruits. Car le jour viendra où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, « Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. » Car ainsi parle le Seigneur, « Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez les voix, vos voix, chantez des louanges et dites, « Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. » Jusqu'ici donc nos lectures. C'était hier, à Jérusalem, tout ce que nous avons lu. Ce pourrait être aujourd'hui en Ukraine, ou parmi des familles qui ont dû tout quitter, ou ailleurs, dans tous ces endroits où le paysage intérieur pour les gens se dessine en nuit et en brouillard dans leur cœur. Un homme marche au milieu de ruines, des ruines de sa ville, des ruines de sa vie d'autrefois. Chaque pas, chaque lieu réveille une mémoire douloureuse où s'entrechoquent les images. Les images d'autrefois, des visages d'enfants baignés de soleil, des places joyeuses aux mille bruissements de la vie, les images d'aujourd'hui qui semblent irréelles et qui pourtant sont vraies, des murs incendiés, des édifices dévastés, des rues silencieuses. Les rares passants marchent courbés, on n'échange pas un mot. Où trouver les ressources d'une parole lorsque la mémoire est submergée par les images de dévastation, de vie brisée? Que dire lorsqu'il semble que la vie n'est plus devant, mais désormais derrière soi? Cette situation, c'est celle de Jérémie lorsqu'il écrit ce texte des Lamentations. Il s'arrête. A-t-il jeté un regard sur un pan de mur noirci par la fumée, par les flammes, sur un dernier vestige du temple encore dressé vers le ciel, mais tout carbonisé? Son regard semble se fixer sur un horizon plus lointain. Quelques mots seulement. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses tendresses ne sont pas épuisées. Quelle parole dans ces situations? Pas à leur terme, pas épuisées. Trop besoin d'espoir? Ou parole forte d'un ancrage plus profond? Nous sommes aujourd'hui aussi témoins de ce genre de réalité, par écran interposé quand même, reconnaissons-le, nous ne sommes pas nous-mêmes dans la tourmente, mais elle est réelle, écrasante pour tant de personnes. Mais nous avons tous aussi, à notre petit niveau dans notre vie, et à une échelle bien plus modeste, des réalités qui sont comme ces ruines finalement. Nous avons tous nos rêves brisés. Nous avons tous des projets qui n'aboutissent pas à notre niveau à nous, ou des obstacles qui ont surgi à des endroits où nous ne les attendions pas et qui semblent désormais boucher pas mal de perspectives, ou des actions dans lesquelles nous nous sommes investis et qui finissent en queue de poisson. Comment continuer? Où trouver les ressources? Où trouver le courage? Et c'est vrai pour nous personnellement, c'est vrai aussi parfois en tant qu'Église. Le prophète Jérémie se trouve au milieu d'un tel désastre. Il pleure, il dit sa peine, il dit son désarroi, mais il veut garder l'espérance. Et il veut garder l'espérance d'un encore de Dieu pour lui, malgré ce qu'il vit maintenant. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. On pourrait le soupçonner de fuir la réalité trop dure, de se réfugier dans une consolation à bon prix, mais ce serait lui faire un procès, un faux procès. Cet homme a toute sa vie assumé le réel, y compris lorsque la réalité est exigeante. Quelques mots pour rappeler ce que Jérémie a enduré et comme c'est un homme de la réalité. Une bonne partie de sa vie s'est déroulée dans une ville comme en sursis, où l'on sait ce que veut dire les mots de siège, de menace, d'exil. Les menaces, les secousses, il connaît. Pendant les premières années de son ministère, il s'est investi corps et âme dans une réforme religieuse menée avec le roi Josias pour ramener le peuple d'Israël à Dieu. Et il a découvert en face la dureté du cœur humain, la superficialité d'un peuple qui préfère vivre l'instant plutôt que de se remettre en question et d'écouter les avertissements. Le roi Josias meurt prématurément et Jérémie assiste à l'écroulement de leur réforme. En quelques mois, il n'en reste pratiquement rien. Le peuple retourne à ses anciens démons, à l'idolâtrie. 12 ans après, c'est l'ébranlement. Jérusalem tombe une première fois aux mains des guerriers de Babylone. Une partie de sa population est emportée sur les routes de l'exil. C'était annoncé, malheureusement. Jérémie passe les 10 années suivantes dans ce qu'il reste de Jérusalem, avec une population décimée, un roi fantoche, un climat insurrectionnel des combines politiques permanentes, 10 ans vraiment très compliqués. On multiplie les plans de révolte contre Babylone. Des prophètes s'en mêlent. Ils annoncent de la part de Dieu que dans 3 ans, ce sera la délivrance. Et Jérémie doit dire non, il y aura l'exil, il va être long. Et c'est seulement après que Dieu va intervenir. Il est accusé de traître. Il est emprisonné. Il est l'homme du réalisme face aux promesses trop faciles. Et malheureusement, la réalité lui donnera raison. Après un nouveau siège terrible, Jérusalem est détruite, incendiée complètement. Une nouvelle vague d'exilés est emmenée à Jérusalem, comme aujourd'hui ceux qui quittent l'Ukraine. Et Jérémie reste avec les plus pauvres dans une ville dévastée. Quel tableau! Mais voilà l'homme qui dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur ». Voilà l'homme qui parle d'un encore de Dieu pour son peuple, tout sauf un rêveur, mais quelqu'un qui a appris vraiment à affronter lucidement la réalité. Et tout en affrontant la réalité, il a appris aussi à regarder plus loin et à cultiver le regard de l'espérance. Il a connu pourtant ces années d'efforts, souvent solitaires, et tant d'occasions de désespérer de tout, mais pourtant, il garde un regard d'espérance. Il doit envisager, comme nous aujourd'hui, un bouleversement durable des équilibres, une ère d'incertitude, et pourtant, il garde l'espérance. Il porte en sa mémoire des images de destruction, de douleur qui ne s'échappent pas, qui ne s'effacent pas, et pourtant, il garde un regard d'espérance. Quelles sont les ressources de Jérémie? Les ressources d'une telle attitude, c'est en Dieu qu'il les trouve. Le Dieu dont la bienveillance permet encore et toujours de porter ce regard d'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et parce que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, Dieu est ce Dieu qui sait dire encore, il y aura encore. Il est le Dieu des encore. Et c'est cet aspect de l'espérance que j'aimerais souligner avec vous ce matin. Encore. En hébreu, c'est un tout petit mot de 3 lettres, mais il est plein de fèves. Il revient plusieurs fois sous la plume de Jérémie dans la deuxième partie de son livre, au chapitre 30 à 33. « Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Tu auras encore des tambourins pour parure. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. » Quelle est la source de ce mot? Qu'est-ce qui permet de dire cet « encore » C'est une conviction de Jérémie. Quelle que soit la situation, Dieu garde des ressources de bonté pour les siens, même s'il permet des moments difficiles. Il est le Dieu qui voit plus loin, il est le Dieu des encore. Et on a lu ce beau texte où Jésus disait aussi à ses disciples, « Vous allez tous me trahir, mais je vous précéderai en Galilée. » Ce Dieu qui voit plus loin, qui a des ressources pour l'avenir. Encore. Impossible de dissocier ce mot de la foi. Avoir foi en Dieu, en sa bonté profonde, en sa justice, c'est avoir confiance dans ce Dieu capable de dire encore, il y aura encore. Ce Dieu qui peut affirmer, oui, il y aura encore, là où nous serons réduits à dire simplement, il n'y a pas. Ou là où nous sommes réduits à dire simplement, il n'y a plus. Ou même, il n'y aura plus. On dit parfois cela. Et c'est notre réalité. Il est ce Dieu qui est capable de dire « il y aura encore » là où nous ne pouvons pas le faire. Il est ce Dieu aussi qui sait préparer ses « encore » pour nous, qui sait nous fixer des rendez-vous d'espérance, comme Jésus l'a fait en disant « je vous retrouverai en Galilée ». Car le Dieu de la promesse est plus qu'un Dieu qui simplement parle, il est aussi et il veut être ce Dieu qui vient, qui agit pour nous, qui injecte de nouvelles possibilités dans notre vie, dans notre histoire. Considérons donc quelques facettes de cet aspect tout à fait particulier de l'espérance qui consiste à dire Dieu est le Dieu qui peut apporter des encore dans notre vie. Cette parole qui dit « il y aura encore » nous projette très fortement dans l'avenir. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle fait d'abord référence au passé. Il y a un ancrage dans l'espérance. Quand on dit « il y aura encore », ce n'est pas le même futur que dans l'expression « un jour viendra ». Un jour viendra, tout est devant. Il y aura encore, quand on dit cela, on fait référence à quelque chose qui existe ou qui a existé et sur lequel on peut s'appuyer pour regarder plus loin devant. Et c'est ainsi que Dieu parle d'espérance dans la Bible. Il se présente comme le Dieu des encore et pas simplement comme le Dieu des un jour viendra. Sa parole ne nous laisse pas un pur futur et rien que cela entre les mains. Il y a toujours une référence, une mémoire, un appui dans ce que Dieu a déjà fait. Ce qu'il promet d'être, il l'a déjà été. Il en a déjà manifesté quelque chose et ça donne un appui pour pouvoir mieux regarder devant. Et elle est riche, cette mémoire du peuple de Dieu. Elle est riche. Grâce à elle, le prophète peut même éclairer une réalité comme l'exil. Il rappelle en parlant du retour à venir de l'exil, de l'expérience d'Israël au désert autrefois. Nous l'avons lu. Il a trouvé grâce au désert le peuple des rescapés. Israël marche vers son repos. Chapitre 31, verset 2. Israël a expérimenté dans son histoire qu'il y a en effet des déserts, mais qu'avec l'aide de Dieu, ces déserts, on peut les traverser et que Dieu sait les faire aboutir jusqu'au repos. Et cette expérience qu'Israël a déjà vécue, Jérémie la reprend pour dire « il y aura encore » comme un nouvel exode lorsque Dieu saura faire revenir d'exil son peuple. Tu auras encore des tambourins, tu auras encore des danses joyeuses. C'est rappeler tous ces moments où Dieu a été vraiment, où Dieu a été le Dieu de la vie, où sa lumière a été quelque chose de réel et de tellement bienfaisant. Dans toute la Bible, Dieu fonde ses promesses et ses appels sur ce qu'il a déjà, accompli pour nous. Quels sont les premiers mots quand il donne la loi ? « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » On peut s'appuyer là-dessus. Et quelle est sa démarche en Jésus? Nous l'avons lu tout à l'heure. « Celui qui est la parole de Dieu a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire. » D'abord le Dieu qui vient, ensuite la manifestation de sa gloire et de l'espérance par sa résurrection. Qui triomphe de tous les obstacles au matin de Pâques. Et si nous regardons à notre vie, nous découvrons aussi en nous ces aspects de l'action de Dieu où il a déjà agi, où il a déjà fait des choses pour nous, où il a déjà manifesté qu'il est un Dieu vivant, un Dieu fidèle. Et c'est fort de cela que nous pouvons regarder plus loin. Nous n'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce qui nous permet de regarder plus loin. Le Dieu des encore ne nous laisse pas les mains vides en vue de l'espérance. Il est un Dieu qui a déjà donné, qui a déjà tellement fait, qui a déjà agi pour nous. Et il nous invite à garder les yeux bien ouverts là-dessus, à garder en mémoire, à chérir dans notre mémoire ce que Dieu a fait déjà pour nous, comme une base, comme un ancrage pour garder une espérance vivante. Et c'est donc ce premier aspect de dire il y a un ancrage de l'espérance dans ce que Dieu a déjà fait. Mais dire « il y aura encore », c'est aussi reconnaître qu'il y a parfois des ruptures. Jérémie ne dit pas à son peuple « mais mon peuple, Dieu est toujours ton tambourin, Dieu est toujours ton chant, Dieu est toujours ta danse, Dieu est toujours ta joie. Non, il dit, tu auras encore des tambourins, des chants. Ce qui laisse place pour l'instant à autre chose que les chants, à autre chose que les tambourins et la danse. Et devant une ville dévastée comme Jérusalem l'était au temps de Jérémie, on comprend bien cela. Et il y a là, vous voyez, une sorte d'humilité aussi, de l'espérance, et qui fait du bien parce qu'elle permet d'être vrai. Devant une ville détruite, dévastée, ce n'est pas le moment de danser, de chanter en disant « Dieu est toujours notre danse ». Il y a un temps pour toute chose. Il y a ces moments dans la vie, ces circonstances qui blessent profondément et qu'il faut vivre dans leur réalité. Et il est admirable ici que ces paroles d'espérance qui dit « il y aura encore des tambourins, il y aura encore des chants » ne soient pas juste des paroles plaquées qui écraseraient de la poids de gloire ceux qui s'y retrouvent pas du tout. Dieu parle avec justesse à son peuple en disant « oui, il y aura encore des danses » plutôt que de dire « mais je suis ton chant, tu n'as qu'à te réjouir en moi ». Dieu laisse ainsi l'espace pour cheminer, tout en donnant une perspective, tout en donnant un horizon. Et c'est encore que Dieu prononce en disant « tu auras encore » est sa manière de dire aussi qu'il a vu ce que l'on vit, qu'il sait, qu'il respecte la difficulté d'un moment présent et le temps qu'il faut pour cheminer vers la lumière, tout en donnant des perspectives pour regarder plus loin. Et le Dieu qui parle ainsi vraiment dans l'humilité et le respect du cheminement, c'est déjà le Dieu de Jésus-Christ. Lui aussi est venu vivre à notre rythme. Lui aussi est venu marcher à notre pas. Et nous avons à apprendre, nous aussi, à l'égard de ceux que nous côtoyons, cette humilité d'une présence et de paroles d'encouragement qui respectent les cheminements, qui laissent un espace à ce que vivent les gens, plutôt que d'imposer, de plaquer des vérités massives. Donc, il y aura encore, c'est une espérance, oui, mais qui sait reconnaître les ruptures. Mais en même temps, ce Dieu qui reconnaît les ruptures ne coupe jamais le fil de l'espérance. Et dire il y aura encore, c'est vraiment affirmer une continuité, la continuité de l'amour de Dieu malgré tout ce qui peut être vécu. Et cette continuité, Jérémie l'exprime vraiment avec des mots très forts, qui sont cette fois-ci au présent. Et ces mots parlent de l'amour, de l'engagement de Dieu. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Là, on est dans le présent, dans la continuité. « Je t'aime d'un amour éternel. » Je suis un père pour Israël, voilà pourquoi je le conduis à nouveau vers des torrents d'eau. Quoi qu'il arrive, cela demeure. Quels que soient les événements heurtés de notre vie, cet amour tient, cet engagement ne faiblit pas. Et c'est cela qui rend possible et qui porte les encore de Dieu pour nous. Et ce présent de l'amour de Dieu qui dit « je t'aime d'un amour éternel » est tout sauf une espèce de ligne plate, hein, comme un présent de principe. C'est un amour qui vibre dans le cœur de Dieu. Lorsque le Seigneur parle du peuple d'Israël, il dit « Éphraïm n'est-il pas pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ?» Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. L'amour de Dieu n'est pas un amour par principe en disant « Dieu aime les hommes », mais non, Dieu est un Dieu qui vibre vraiment à ce que nous sommes, à ce que nous vivons. Et c'est fort pour nous de se rappeler la continuité de cet amour qui permet l'espérance. Mais dire « Dieu aura encore des ressources pour nous », c'est vraiment une façon de dire « oui, toutes les ressources de Dieu en face de ce que nous vivons ». Et j'aimerais vraiment qu'on puisse juste maintenant encore essayer de donner quelques éléments, quelques petites facettes de ce que peuvent signifier ces ressources de Dieu au travers de la signification de ce mot « encore ». Quand on dit « il y aura encore », ça veut dire d'abord « il y aura encore une fois ». Et l'image ici est celle de la ligne qui se prolonge. La ligne qui se prolonge. Le Dieu des encore est capable de prolonger ce qu'il a commencé. Ou de reprendre ce qu'il a commencé pour le faire aboutir. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul dans Philippiens 1, verset 6. Dieu n'oublie pas ce qu'il a initié, et c'est pour ça qu'il dit « il y aura encore ». Encore une fois, cette ligne qui continue. Dieu est aussi le Dieu des aboutissements qui demande du temps. Nous avons lu au chapitre 30, verset 17, « Je te guérirai, je panserai tes plaies ». Ça prend parfois du temps, mais Dieu poursuit ses lignes. Et donc encore, c'est encore une fois cette ligne qui est devant. Mais quand on dit « il y aura encore », ça peut aussi vouloir dire « il y aura par ailleurs ». Par ailleurs. Et quand on dit cela, on considère par exemple ce qui peut surgir un petit peu de côté. Il y a d'un côté les lignes, Dieu continue ce qu'il a commencé, et puis il y a ce qui peut venir par ailleurs, ce que Dieu a comme ressources pour apporter dans notre vie, ce qu'on peut appeler les ressources latérales de Dieu. D'un côté, de l'autre, Dieu peut faire surgir des choses sans qu'on les attende vraiment. Le Dieu des encore n'est pas simplement ce Dieu des lignes que l'on peut tracer, mais aussi le Dieu de tous ces par ailleurs qu'il sait faire venir dans notre vie. Et c'est important, c'est bien pour nous de penser aussi à ce Dieu comme le Dieu qui a des ressources larges et qui peut toujours faire surgir d'un côté ou de l'autre ce dont nous avons besoin, de nouveaux possibles ou de nouvelles solutions. Je me souviens de vraiment l'expérience quand j'étais pasteur au tabernacle, on avait eu un pianiste qui était là, qui avait fait un beau travail parmi les jeunes. Et tout d'un coup, ce pianiste doit partir parce qu'il a une mutation. Et je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est dommage, on le perd. Et qu'est-ce qui se passe à la rentrée suivante? Un autre couple arrive. On a eu cette fois-ci un pianiste et une violoncelliste et qui ont fait le même travail. On n'avait pas du tout imaginé que ça vienne, ces ressources latérales que Dieu sait apporter de temps en temps. Et on est toujours ébloui de ces choses-là. Et c'est bien pour nous de penser, oui, le Dieu des lignes qui sait continuer, et puis le Dieu qui, à un moment donné, sait faire venir des choses dans notre vie. Mais encore, c'est aussi à nouveau. Hein. Et ça, c'est une belle expression aussi, de dire Dieu sait faire des choses à nouveau. Hein. Alors, quand on dit à nouveau, ça veut dire déjà retrouver parfois ce que l'on avait perdu. Hein. Tu auras encore des tambourins, tu planteras encore des vignes. C'est souvent quand on perd quelque chose que l'on prend la conscience de la valeur inestimable que ça. Hein, pensons à la paix, par exemple. Mais le Dieu des encore, c'est par-delà les pertes, renouveler et recréer ce qui a été perdu, ce qui manque cruellement. Et ces nouveaux tambourins ou ces nouvelles semailles que l'on peut faire sont alors un vrai miracle. On les reçoit comme un bienfait magnifique. On les avait perdus et puis on découvre comment c'est précieux. Et merci Seigneur de ce qu'il sait à nouveau donner ces choses-là. Mais à nouveau, ça veut dire aussi avec de la nouveauté. Hein. Et Dieu sait aussi apporter de la nouveauté dans les choses, faire du neuf pour nous. Quand il met un champ nouveau dans nos vies parce qu'il y intervient d'une manière nouvelle, c'est vraiment quelque chose qui se renouvelle. Et c'est bien aussi pour nous de nous dire que Dieu a ces ressources-là. Et c'est pourquoi le prophète parle aussi d'un Dieu qui ensemence la maison d'Israël. Il fait de nouvelles semailles qui pourront porter des fruits inédits. Voilà donc une vision, me semble-t-il, de Dieu qu'il nous faut apprendre à cultiver dans notre cœur. Dieu est ce Dieu qui a les ressources de dire des encore pour nous, pour notre vie, là où nous, peut-être, n'avons plus du tout ces ressources-là. Il est ce Dieu-là. Et c'est cette vision qui a habité Jérémie, qui l'a porté, qui l'a soutenu, malgré une vie, malgré des expériences qui n'ont pas été toujours faciles, qui n'ont pas été toujours lisses. Jérémie a gardé confiance dans les ressources de Dieu, le Dieu de l'espérance. Mais l'espérance chrétienne, ce n'est pas simplement cette, cette espérance pour le lointain, c'est l'espérance pour maintenant déjà, pour la continuité de notre vie. C'est vraiment de ces ressources-là, de notre Dieu, que nous voulons vivre aujourd'hui encore, nous aussi, jusque dans les temps incertains qui sont les nôtres, que nous connaissons, et peut-être parfois dans les choses, les réalités qui pourraient nous décourager, humainement parlant. Gardons confiance dans les ressources de notre Dieu. Ne limitons pas sa capacité d'agir pour nous. Ne faisons pas de l'espérance simplement quelque chose pour le monde à venir, mais dès aujourd'hui, attendons-nous au Seigneur, à ses ressources, tout en respectant les temps et les saisons. Guettons le Seigneur et son action là où nous avons besoin, comme les gardes guettent le matin. Sa bonté se renouvelle de bien des façons, de bien des côtés. Elle nous précède, elle nous attend, elle nous est acquise en Jésus-Christ. Gardons donc ce regard clair, fort de cette confiance, et engageons-nous aussi, comme le Christ s'est engagé pour nous, en nous appuyant aussi sur le fait que Dieu est là, que Dieu est le Dieu de l'espérance. Ne nous lassons pas de faire le bien, parce que justement Dieu est le Dieu de ces encore, dans toutes les situations que nous pouvons connaître. Mettons-nous au service des encore de Dieu, par la persévérance à agir pour le prochain, pour le bien, dans une persévérance à semer encore et toujours, en gardant confiance dans les ressources et dans les projets de Dieu. L'apôtre Paul nous disait que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est vraiment cela auquel nous invite cette perspective du Dieu de l'espérance, du Dieu qui est capable de dire encore pour nos vies. Et je nous souhaite vraiment de cultiver cet état d'esprit aussi et cette confiance en notre Dieu. Je vais terminer par une prière. C'est une prière que je n'ai pas écrite, prière du professeur de théologie André Dumas, et c'est cette prière qui a vraiment éveillé cette réflexion sur les encore de Dieu. Et je vous invite à prier enfin ensemble cette prière et à l'écouter, la méditer ensemble. Seigneur notre Dieu, nous ne savions pas qu'il y aurait un encore. Nous avions pensé que rien d'important, rien de gracieux ne nous souviendrait plus. Nous étions devenus de ceux qui affichent fermés pour cause de saturation ou de dénuement, parce que trop fade était l'habitude et trop douloureux le souvenir. Nous avions nos yeux dans notre dos, nous marchions à reculons, nous étions l'autruche au soir de la journée. Et voici qu'il y a encore quelqu'un qui me découvre et que je découvre. Tant et si bien que d'un coup nous sommes de jeunes vieux amis d'aujourd'hui et pour toujours. Et voilà qu'il y a encore une parole de toi à connaître, à savourer. Tant et si bien que d'un coup elle brille comme une perle dans l'huître entrouverte. Et voici qu'il y a encore un travail à faire. Tant et si bien que d'un coup mon inutilité se mobilise et ma journée se repeuple. Je ne savais pas, Seigneur, que je pourrais dire encore, sans le pli amer de la bouche qui retombe, avec le pli curieux de l'œil qui s'allume. Mais il y a encore cette prière que je puis t'adresser. Il y a encore cette église où je puis m'arrêter et recevoir de toi. Il y a encore mes enfants, mes petits-enfants, mes parents, mes grands-parents que je puis chérir. Il y a encore ces occasions données pour être humblement à ma place, artisan de ta paix. Il y a encore ces rayons de beauté où je puis m'apaiser et réchauffer mon cœur. Notre Dieu, donne-nous ces encore que ta bonté a préparés d'avance pour ceux que tu aimes. Amen.